RMC.
Nous sommes de modestes provinciaux qui seraient très satisfaits d'être champions d'automne.
C'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie.
On s'est tapé dans la main en visio dans la nuit.
After Lyon,
Gilbert Bribois.
Bonjour à tous, l'After Lyon est là comme toutes les semaines, évidemment avec vous. Et nous aussi, on va se taper dans la main en visio avec Edouard G, qui est à Lyon. Salut Edouard.
Salut Gilbert, salut à tous.
Il est fort ce Jean-Michel, il tape dans la main en visio avec John. On a un bel invité aujourd'hui, Edouard, avec nous. Nicolas Rabuel est là, ancien joueur de Lyon, ancien entraîneur de Valenciennes. Nicolas, bonjour.
Bonjour Gilbert, bonjour Edouard, bonjour à tous.
Edouard, tu sais qu'on se connaît avec Nicolas parce qu'on avait fait un after à Boulogne à l'époque où Nico était joueur à Boulogne.
Et je sens de la nostalgie
dans
ta
c'était
voix,
une
là.
Magnifique soirée, on avait été reçus comme des rois par le club de Boulogne. Voilà. Donc je les salue à Boulogne s'ils nous écoutent, ils nous manquent.
Ouais, bah je les salue également.
Voilà. Bon, Lyon, alors, deux choses aujourd'hui. On est au lendemain de la qualification en finale de la Coupe de France. On a commencé le débat hier soir dans l'after concernant la Lacazette, son influence, et puis ses qualités qui ont ramené le débat de la possibilité de l'équipe de France pour lui hier soir. On va en reparler ensemble, puisque toi, Edouard, qui est au plus près de l'équipe, tu as peut-être des infos à nous donner. Et puis, il faut qu'on parle de John Textor, parce qu'on a l'impression que, ça y est, la greffe commence à prendre. Et il est adopté. Enfin, c'est l'impression qu'on a de loin. Maintenant, vous qui êtes de près, vous allez nous dire si c'est vrai. Mais démarrons quand même sur Lacazette. C'est moi qui ai lancé ça hier soir parce que bon, il a fait un match. Alors vous allez me dire Valenciennes. Pardon, Nico, c'est ton ancien club. Mais enfin, voilà, ils sont un peu en galère. Hein, donc il y avait quand même un écart de niveau qui était clair. Enfin, Lacazette a fait un grand match, un de plus. Il fait une très belle saison. Une de plus. Et hier soir, dans l'after, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il a de moins que Colomoigny ou qu'est-ce qu'il a de moins que Thuram? Et évidemment, on a déclenché les supporters lyonnais sur les réseaux sociaux.
Le peuple lyonnais.
Qui encore aujourd'hui se dit, ouais, c'est vrai, il y en a marre, l'équipe de France, on a l'impression que c'est un truc fermé, ils veulent pas des Lyonnais, ils veulent pas de Lacazette et tout. À Lyon, on en dit quoi de Lacazette en équipe de France? On se dit que c'est mort de chez mort parce que c'est trop tard, parce que on sait que c'est pas les. Dans les habitudes de Deschamps d'ouvrir comme ça un groupe à quelques semaines d'une compétition, ou bien éventuellement on y croit toujours, Edouard?
Je crois qu'on s'est fait une raison. Moi, j'ai pas forcément dans ces heures d'après ou même récemment, même parce que c'est quand même le joueur aussi, par exemple, hein, dans ce jour magique de l'OL qui était le 10 décembre, quand enfin il gagne à la maison 3-0 et sur un triplé d'Alexandre Lacazette. Donc l'histoire Lacazette cette année comme l'année dernière, j'en entends pas parler, quoi. En fait, quelque part, on s'est fait un peu à la raison que, il sera pas en équipe de France. Et puis voilà. Et puis, tant qu'il peut rester à Lyon et donner toutes ses forces à l'OL et surtout pendant les trêves internationales, justement, se refaire la santé pour Lyon, je pense qu'on retient ça de ce côté, bon, au niveau des supporters. Hein.
Nicolas, on est quand même bien d'accord qu'il a clairement le niveau, non?
Oui, non, pour moi, il a clairement le niveau, il l'a démontré, mais de la même manière qu'il l'avait démontré les autres années. Après, si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, et aujourd'hui, si on compare avec des Colomoigny ou des Thuram, c'est déjà pas du tout le même profil. Là, on parle de Lacazette, qui est plus un profil joueur dans l'entrejeu, point d'appui, etc. Alors que Colomoigny, Thuram, on va parler de joueurs d'espace, de joueurs de profondeur. Donc, si déjà on va vraiment purement sur l'aspect sportif, je pense que Deschamps, vu le style de jeu, il va plus être amené à vouloir avoir des joueurs de transition, des joueurs d'attaque rapide. Et donc, si on doit aller comparer et éventuellement se dire, tiens, est-ce qu'il y a une place pour lui en équipe de France, ce sera la place de Giroud. Mais quid de Giroud, Olivier Giroud, et on sait, là aussi, là-dessus, on sait l'importance qu'accorde Didier Deschamps à l'esprit groupe, à la vie de groupe, au fait d'avoir vécu des choses ensemble. Olivier Giroud, il est dans le groupe France depuis longtemps. Donc, à mon avis, la réflexion se pose, mais pour moi, le débat ne sera même pas mis sur la table.
Bon, c'est quand même fou la carrière de Lacazette en équipe de France. C'est-à-dire qu'en fait, il a mis un doublé contre l'Allemagne, ce qui est jamais quand même pas mal. Je veux dire, c'est après, terminé. Plus rien.
Ouais.
Bon. Ouais. C'est cruel. Ouais. Hein.
Après, je pense aussi qu'on se pose la question par rapport à Colomoigny. Je pense que si Colomoini met l'occasion en finale de Coupe du Monde, on se pose même pas la question.
C'est vrai.
Bon, c'est qu'aujourd'hui, ça revient sur la table parce qu'on a tous en mémoire.
Exactement. Bon, c'est malheureux pour lui. Hein, et en fait, il est un peu barré par le système, quoi, en quelque sorte, en fait, la Lacazette.
Et puis, mais je crois qu'il est aussi, il a été freiné par son body language aussi, je pense.
Ah oui.
Son côté un peu voilà. Oui. Je pense que je sais pas toi Nico en tant que coach si tu accordes de l'importance, mais moi c'est les échos qui me reviennent aussi à un moment donné. Mais je vous parle de il y a quelques années, voilà, ce côté un petit peu nonchalant qui fait que voilà, ça a peut-être pas plu en haut lieu.
Ouais. Nicolas, là-dessus, tu crois?
Oui, c'est sûr que c'est un élément. C'est un élément qui peut jouer parce que c'est vrai qu'il a parfois il lève les bras, mais aussi je pense qu'il essaye un peu d'influencer l'arbitrage. Il joue aussi de son expérience. Est-ce que ça joue? En tout cas, si ça joue, pour moi, c'est quand même quelque chose qui se corrige. C'est des choses sur lesquelles on peut travailler quand on est coach, quand on est staff. Je pense que le débat, il va bien au-delà que son body language. C'est voilà, il y a tellement d'éléments. Enfin, on en parlait de ces années quand il était à Arsenal où il performait, et puis finalement la porte s'est rarement ouverte ou entrouverte pour lui.
Hein. Exactement. Bon, voilà, j'ai pas l'impression qu'il soit hyper revendicatif. Il y a des joueurs qui font des déclarations, des interviews, disant ouais, moi j'aime l'équipe de France, je ne comprends pas. Là, j'ai pas souvenir. Ces dernières années, dans Lacazette, là, qui s'exprime là-dessus, Edouard, à moins que ça m'ait échappé, mais...
Non, bah justement, ça fait aussi partie de ce côté un peu détaché.
C'est fait une raison, quoi, en fait.
Il s'est fait une raison. Je pense qu'il s'est fait une raison depuis un petit moment, comme je vous en parlais aussi pour les supporters. Voilà. Ben, je n'en serai pas, tant pis, je fais ma carrière, à côté. Et je sais même pas, alors je suis pas dans l'intimité, mais je sais même pas s'il a quelque part un regret par rapport à ça. Forcément, mais c'est pas quelque chose qui l'atteint.
Bon, donc on a lancé le débat quand même. Les Lyonnais étaient pour, mais malheureusement, je pense que ça n'ira pas bien loin. Donc c'est dommage pour lui, hein, parce qu'une nouvelle fois, quand on voit le niveau qu'il a, il ferait pas tâche en équipe de France. Bon, autre dossier du jour, John Textor. Et là, il y a quand même un retournement, de mon point de vue. Edouard, hein, il est en train de retourner l'opinion lyonnaise. Notre ami de Boston là, parce que on se souvient des péripéties du début, quand il est arrivé un peu avec ses gros sabots, il connaissait pas trop les codes, après il connaissait pas la DNCG, après on s'est rendu compte qu'on lui a peut-être fait à l'envers sur certains dossiers en lui disant pas tout, après il y a eu des histoires de financement, on comprenait pas tout, on se dit oulala, mais peut-être il a pas l'oseille. Au final on arrive au mercato d'hiver, là pam,
56 millions,
il balance 56 millions, on se dit waouh, impressionnant, yes John, bien joué papa. Après on le voit qui fait du skate et de la trottinette, et qui va avoir les matchs de
la
jeunes.
Trottinette.
J'ai aussi vu le skate, moi.
Ah bon, d'accord. Moi, j'ai vu que la trottinette. Ouais. D'accord. Ouais.
Après, on le voit aller aux matchs de jeunes contre Saint-Etienne, se mêler aux supporters, à d'autres occasions aussi, avec sa bière à la main. Est-ce que, à Lyon, toi qui y es, Edouard, t'as l'impression qu'effectivement, ça y est, la greffe prend et qu'il a réussi à retourner l'opinion lyonnaise en sa faveur?
Ah oui, clairement. D'ailleurs, j'avais écrit un long article la semaine dernière là-dessus. Je vous résume en quelques mots. En fait, il y a eu le temps déjà qui fait son œuvre. Voilà, c'est comme tout. Hein. Ça fait un an qu'il est là. Les Lyonnais ont appris à faire sans Jean-Michel Aulas. Les deux hommes se sont réconciliés. Alors certes, il y a eu une belle somme entre les deux, mais ça aide. Et donc, ça a fait un climat d'apaisement dans ce fameux jour magique, ce dimanche magique du 10 décembre. Tout le monde était réuni, notamment Jean-Michel Aulas, John Textor, et puis surtout John Textor. Tu parlais de ses débuts en cow-boy et que je renverse tout le monde et que moi, je suis un Américain, je vais tout révolutionner. Mmh. Eh ben, il a infléchi totalement sa méthode et il s'est dit, voilà, là où il voulait être aussi directeur sportif, et ben il a nommé David Friot. Là où il voulait pas trop d'un directeur général, où il savait pas trop qui prendre, ben il est allé prendre un excellent personnage chez Laurent Prudhomme, qui incarne ce côté French touch du relationnel avec les politiques. Même les politiques m'en disent du bien maintenant, vous imaginez. Même des anciens joueurs qui n'étaient pas forcément pour, parce que justement il avait un petit peu renversé la table, m'en disent du bien. Et puis surtout au niveau des supporters, ben il a sorti le carnet de chèques, alors qu'on se souvient qu'au mois d'août, tu en as parlé, mais il avait promis des choses, notamment, vous inquiétez pas, les pépites Luqueba et Barcola resteront, et on sait où elles sont désormais. Donc voilà, il a fait beaucoup aussi pour que ça change. Il faut noter que voilà, il y a eu un alignement de planètes, mais quelque part, il a eu l'intelligence d'infléchir tout ça.
Nicolas, tu as l'impression aussi d'une situation apaisée maintenant au club ?
Oui, c'est le sentiment qui se dégage de l'extérieur. Maintenant, je serais quand même beaucoup plus mesuré qu'Edouard. Mais ça, c'est mon côté coach, où justement, on a besoin de stabilité. Et force est de constater que depuis qu'il est arrivé, il y a eu beaucoup de remue-ménage dans les bureaux, à la direction administrative, à la direction sportive. Il y a eu beaucoup de changements dans l'effectif. Et alors, en effet, il a sorti le carnet de chèques cet hiver, alors que son coach lui avait plutôt dit... président, gardez vos sous, on verra ce qu'on va en faire, on peut se maintenir avec cette équipe là. Donc moi je dis oui, c'est bien, il y a une structure qui a été remise en place. Maintenant faut que ça dure. Parce que on le voit à Botafogo, on le voit à Molenbeek, la stabilité, c'est quand même pas ce qui caractérise John Textor. Moi, j'aime beaucoup le côté américain où je vais me montrer, on va faire un petit peu du show à l'américaine parce que nous, les Latins, on n'est pas trop habitués à ça et je trouve que ça amène un vent de fraîcheur dans notre championnat. Maintenant, en étant très terre-à-terre, et quand on est entraîneur, il faut être très terre-à-terre, c'est aussi la stabilité qui va être mise sur l'effectif parce que même si on est dans un milieu... où il y a de l'achat, où il y a de la revente. Ceci dit, pour performer, il faut une stabilité chez les joueurs, il faut une stabilité dans le staff. Donc, on va voir ce que ça va donner à l'avenir chez les joueurs. Et si on peut regarder un peu plus grand, on voit le PSG où il y a beaucoup de changements depuis que le Qatar est là. La Ligue des Champions, on l'attend toujours. C'est un autre niveau, c'est d'autres moyens, mais ceci dit, le constat, c'est exactement le même. Donc, il faut voir s'il y aura une certaine stabilité où on va pouvoir... Le coach va pouvoir mettre en place ses principes de jeu qui soient assimilés. Et ça, ça prend du temps. Et ça, ça prend du temps, encore plus avec des jeunes joueurs, même s'il a sorti le carnet de chèques. Mais ce sont beaucoup de jeunes joueurs qui sont arrivés, hormis Matic et Benrahma. Donc, j'attends de voir sur l'effectif s'il y aura cette stabilité et surtout sur l'entraîneur. Parce que je rappelle que Pierre Sage n'a pas le diplôme. À ma connaissance, il n'a pas les prérequis non plus. Donc, il ne pourra même pas postuler au diplôme. Donc c'est tout ça. Donc, toute l'enveloppe, ça me paraît bien. En effet, toute l'enveloppe, ça me paraît bien. Maintenant, je pense qu'il faut aller creuser un peu plus à l'intérieur.
Oui, c'est 25 000 euros d'amende par match, hein, quoi, cette histoire de coach. Donc, c'est quand même conséquent. Enfin, là-dessus, bon, c'est. Moi, je trouve ça assez dingue. Qu'on favorise pas l'accès au diplôme à un gars qui là bah en fait est en train de faire ses preuves. Je veux dire, qui voit que Pierre Sage n'est pas un gars valable, enfin c'est pas possible, c'est un peu ridicule.
Non, ouais. Mais en fait le débat il est ailleurs, le débat il est sur les prérequis. Le débat il est sur les prérequis, c'est qu'aujourd'hui il y a des normes et c'est pas en fait les prérequis et pour moi les prérequis c'est pas la DTN qui les détermine mais c'est l'UEFA, c'est que il faut être un titulaire du diplôme en dessous, donc le DES, ok. Donc ça, en théorie, c'est acté, il y a pas de souci. Et après, faut cocher une des cases suivantes. Les cases, c'est 150 matchs en Ligue 1 en tant que joueur, 15 sélections en A, c'est 5 ans d'adjoint au niveau professionnel, c'est 5 ans de coach au niveau national, U17, 19, N3, N2, ou alors c'est 3 ans en étant en fonction avec le certificat de formateur. Il faut cocher une de ces cases. Une fois qu'on coche une de ces cases, on peut postuler, on dépose son dossier de candidature à la DTN qui dit « Ok, vous êtes recevable au BEPF ». Il y a une liste qui est déterminée généralement entre 35 et 40 candidats chaque année. Une audition orale le matin, une situation pédagogique l'après-midi, et à l'issue de ces auditions, de ces entretiens, il y a une liste de 10 candidats qui sont dégagés. Donc aujourd'hui, Pierre Sage, il ne coche pas une de ces cases qui est déterminée par l'UEFA pour pouvoir ne serait-ce que dire « Ok, je suis éligible, je me présente ». Donc aujourd'hui, il n'a même pas accès au test d'entrée.
C'est incroyable. Nicolas, merci d'être aussi précis parce que c'est très.
Ouais, parce que t'es passé par là, hein, Nico. Et toi, t'as eu ces 150 matchs de. Ouais, t'en sors. Ouais.
Non. Moi, les prérequis, la case que je cochais, c'était les 5 ans en tant qu'adjoint au niveau pro.
Ah oui. C'est là. Pas cumulatif. Hein,
mais en fait, aujourd'hui, Pierre Sage, quand on regarde son cursus, il a un petit peu d'entraîneur principal, il a un petit peu de formateur, mais il a pas la durée globale nécessaire pour cocher une des cases.
Enfin, là, il a 6 mois à Chambéry en CFA 2 en 2013 en tant que numéro 1. Et après, c'est des adjoints de Karim Mokedem à la Duchère et de Habib Bey
au Red Star.
Et je crois que c'est tout.
Qui était en national, donc il n'avait pas le statut pro. Donc, c'est des années, normalement, qui ne comptent pas.
Là, on se rend compte de l'aberration du système. Imaginez quand même qu'on risque d'avoir un entraîneur qui va peut-être gagner la Coupe de France. On lui souhaite. Et là, au mec qui a gagné la Coupe de France, on lui dit « Ah non ! T'as gagné la Coupe de France, mais non ! Parce que t'as pas les prérequis. » Et puis peut-être que les mecs qui vont lui dire « T'as pas les prérequis », eux-mêmes, ils ont jamais gagné la Coupe de France. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais.
Donc, pardon, mais au bout d'un moment, il faut arriver à faire des dérogations, à faire des aides, des équivalences autres, mais c'est problématique quand même.
Le problème, après, c'est que s'il y a une dérogation, qui dit dérogation dit jurisprudence, et qu'après, tout le monde va déposer son dossier en disant « Bah ouais, mais moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Si un tel a été éligible, pourquoi moi, je le serais pas ?» Parce qu'après, peut se poser la question pour plein d'autres coachs qui ont été nommés, qui n'avaient pas les prérequis non plus et qui ne pouvaient pas postuler. À mon sens, il faut voir le problème bien en amont et redéfinir les critères,
exactement,
les prérequis. Et de se dire peut-être que, en effet, quelqu'un qui est nommé en Ligue 1 parce qu'un président lui fait confiance, au bout d'un certain match dans l'année en cours, il peut cocher une de ces cases et il peut postuler à la formation. Sauf que voilà, aujourd'hui, la DTN, et je trouve ça logique, parce qu'il faut aussi défendre le métier d'entraîneur, à partir du moment où il ne coche pas une des cases, on peut pas faire de... Si on fait une dérogation, après, on ouvre une faille et tout le monde va s'engouffrer dedans.
En tout cas, Textor ne fait que lui donner sa confiance, Edouard. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas d'indice quelconque qui amènerait à un changement en fin de saison.
Non, et puis comme je dis depuis quelques semaines maintenant, quelque part, Pierre Sage, c'est le premier vrai entraîneur choisi par John Textor, parce que quand il arrive, c'est Laurent Blanc, c'est pas forcément sa tasse de thé, c'était plutôt celle de Jean-Michel Aulas. Ensuite, il y a eu Jeff Huyet, mais qui était là, l'ancien directeur de l'académie, mais là qui a géré une semaine avant l'arrivée de Fabio Grosso. Fabio Grosso, voilà, c'était un petit peu sous le coup de... C'était encore à l'époque où il était président, directeur sportif, il voulait tout faire, il voulait un nom. Donc il a eu un champion du monde. Et puis finalement, après, il prend un inconnu. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui est très connu dans le milieu amateur en Rhône-Alpes. Hein, je vous conseille, la meilleure publicité, c'est quand on l'a fait soi-même. Un petit article que j'ai écrit justement sur son passé, sur la région Rhône-Alpes. Alors il est très connu là, mais alors au niveau grand public, il est inconnu. Et maintenant, on voit, hein, c'est presque un héros porté en triomphe hier soir par ses joueurs, acclamé par le stade, le tout en 20 matchs. C'est assez incroyable sa trajectoire, et c'est clair que John Textor l'a encore dit, c'est le plus grand cerveau de l'ON, hein, dans ses mots en anglais, John Textor hier soir au diffuseur Bein. C'est un vrai choix de John Textor, et ça, Nicolas, quand un président a choisi un coach pour se dédire, il faut vraiment qu'il ne gagne pas. Et vu qu'en ce moment, il gagne, il a sauvé du maintien l'OL, c'est le maintien. Et potentiellement, un trophée 12 ans après, là où, et c'est le paradoxe, messieurs, les deux derniers entraîneurs à avoir largement échoué cette année, c'est deux champions du monde. Laurent Blanc et Fabio Grosso. C'est un paradoxe qui est incroyable dans cette saison totalement inqualifiable de l'OL.
À propos, Nicolas, toi qui étais coach de Valenciennes, là, quelle est aujourd'hui ta situation ?
Ma situation, elle est que je regarde beaucoup de matchs. J'ai passé une saison où j'ai regardé beaucoup de matchs. Je me suis déplacé dans les stades. J'ai regardé beaucoup de matchs également à la télé. J'ai beaucoup consulté. Je me suis également formé. J'ai passé un perfectionnement en anglais. J'ai passé une formation avec l'UNECATEF. Beaucoup de développement personnel, voilà. Et je me prépare à commencer un nouveau projet, voilà.
Donc tu es dispo,
je suis à la recherche, active d'un nouveau club.
Très bien.
Et on serait ravi à BFM Lyon de te perdre comme consultant régulier sur Cop Gone le lundi soir. Hein, on se le dit.
Mais je serais bien content. Ouais, exactement. Ça m'éviterait des allers-retours jusque Lyon.
Tiens, et puis un petit cadeau pour finir. John Textor, comme on a bien compris que c'était un communicant hors pair, un mec sympa. Là, il écoutait le podcast. Et alors, John, ça te fait quoi d'écouter RMC ?
RMC, I love you guys.
Il est bon ce John.
Il sait faire. Ah,
il sait faire.
Ah,
il sait tout faire. Remets-le-moi le I love you guys là, j'adore. Attention.
RMC, I love you guys.
Ah, I love you guys. Je ne connais même pas le mec. Non mais attends. Bon, il doit connaître Edouard quand même. Merci Nicolas, merci Edouard.
Salut Gilbert,
merci
Nico.
À vous.
Bonne journée.
Avec plaisir, à la prochaine.
À la prochaine. Prochain podcast After Lyon, bien sûr, la semaine prochaine.
RMC. After Lyon.